Nous sommes dans les années 60. Non, mais à l'époque de Tite. Nous sommes dans les années 60, ça fait 30 ans que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il a envoyé ses disciples, qui étaient 12 au départ, aller annoncer l'évangile aux nations qui ne le connaissaient pas. Cela fait aussi à peu près 30 ans que l'apôtre Paul s'est converti, a accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur et son seigneur, et qu'il sillonne les routes du monde romain afin d'annoncer l'évangile, d'implanter de nouvelles églises, de fortifier celles qui existent déjà. À la fin du livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul est emprisonné, tout d'abord à Césarée, puis emmené à Rome, en captivité, pendant une année à peu près. Et Paul utilise tous les moyens, même les choses qui pourraient contrarier son ministère, pour en tirer profit. Et c'est à Rome, dans sa captivité, qu'il va écrire ses lettres aux Éphésiens, aux Colossiens, à Philémon et aux Philippiens. Le livre des Actes ne va pas plus loin dans l'histoire de Paul, mais nous avons d'autres écrits qui ne sont pas bibliques, mais qui sont des écrits historiques. Saint Clément, qui, selon donc ce qu'il a écrit, Paul a ensuite été libéré. Il serait ensuite reparti en voyage en Macédoine. Alors on va regarder la carte. Je vais essayer de pointer avec le laser. Donc Rome ici, il est reparti en Macédoine, qui est cette région-là. Il est allé aussi en Crète, si je ne m'abuse, c'est cette île-là. Non, c'est Malte, c'est qui, c'est Crète, c'est celle-là ou celle-là, je ne sais pas. C'est celle-là ?
Non.
Ouais. Et puis, il serait même allé en Espagne. Donc l'Espagne, dans cette région ici de l'Europe. Ce serait en Macédoine, peut-être à Philippe, qu'il aurait écrit la première épître à Timothée et celle qu'il a écrite à Tite, aux alentours donc de l'année 65. Et c'est important de garder en mémoire que ces deux lettres, 1 Timothée et Tite, sont, je pourrais dire, de la même veine, parce qu'elles font partie, des écrits tardifs de Paul, les plus vieilles lettres, la dernière étant 2 Timothée qu'il a écrite étant à Rome, lettre qu'il a écrite peu de temps avant d'être exécuté en 68. Alors je vous invite déjà à lire, on va ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament, on va ouvrir notre Nouveau Testament à l'Épître de Tite et on va lire les 4 premiers versets. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui est donc ce Tite ? Au cours des années, l'apôtre Paul a formé de jeunes collaborateurs. Il avait en tête non seulement de constituer des équipes, parce qu'il n'aimait pas travailler seul, mais aussi il avait en tête la relève, des gens qui poursuivraient le ministère après lui. Et Timothée et Tite font partie de ces collaborateurs que Paul a formés. Il les a très tôt associés à son ministère, les emmenant avec lui dans ses déplacements. Tite est mentionné de deux manières différentes, dans les lettres de Paul, tout d'abord dans l'Épître aux Galates, où Paul le mentionne à ses côtés dans sa deuxième visite à Jérusalem vers l'année 46. Et il est précisé dans ce texte son origine grecque. Donc, Tite était d'origine grecque. Et puis, Tite est mentionné dans la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens, où Paul mentionne l'envoi de Tite auprès des Corinthiens. Il dit qu'il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Voilà comment il le qualifie. Les versets que nous venons de lire dans donc les quatre premiers versets nous font découvrir que Tite est son véritable enfant dans la foi. Donc très probablement, c'est Paul qui a amené Tite à la foi. Et on le voit au verset 5, on ne l'a pas encore lu, enfin, que donc il le laisse, hein, je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville suivant mes instructions. Donc il lui demande de s'impliquer auprès des églises en Crète, tout comme il avait demandé à Timothée de s'impliquer dans l'église d'Éphèse, dans sa première lettre à Timothée. On sait aussi que plus tard, Tite est allé en Dalmatie. Alors la Dalmatie, c'est cette région-là, de l'autre côté de la mer Adriatique. C'est la deuxième lettre de Paul à Timothée qui nous le dit. Et il est intéressant de voir que Tite, qui était grec d'origine, qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, qui est devenu donc chrétien, il a été enfant spirituel de Paul, puis il a été collaborateur de Paul, et ensuite il a été plus qu'un collaborateur, puisqu'il est fait partie de ceux qui, quelque part, ont succédé à Paul dans les ministères auprès des églises. C'est intéressant de voir ce cheminement. Pourquoi Paul écrit-il à Tite ? Alors, j'ai cité le verset 5 et je voudrais le relire. Hein. « Je t'ai laissé en Crète, pourquoi ? Pour y mettre en ordre ce qui reste à régler et établir des anciens dans chaque ville en suivant les instructions de Paul. » Une petite parenthèse sur le type d'écrit que constitue l'épître à Tite. C'est ce qu'on appelle une épître pastorale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça rappelle l'image du berger. Et dans l'Ancien Testament, l'image du berger est très présente. On peut penser évidemment au psaume 23, « L'Éternel est mon berger » qui parle d'une manière assez extraordinaire de la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Cette image du berger, Jésus la reprend aussi lui-même dans ses paroles, quand il dit « Je suis le bon berger ». Jean 10, verset 11. Et puis, quand on revoit comment Paul aussi a agi, on voit que Paul a toujours eu pris grand soin de ses hommes et de ses femmes auprès de qui il a œuvré. Et je relisais, et je vous invite à relire 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10, où on voit comment Paul a pris soin des Thessaloniciens depuis son arrivée jusqu'à son départ. Alors, non, une épître pastorale, ce n'est pas une lettre qui ne s'adresse qu'au pasteur. Ça veut dire qu'on est tous invités à les lire. Parce que cette lettre envoyée par Paul est à la fois une lettre de mission pour Tite, qui était un des responsables, effectivement, mais c'est aussi une lettre de recommandation auprès des églises de Crète. C'est des instructions qui sont pour Tite et pour les églises. Paul a écrit à Tite pour l'encourager à prendre soin des églises de Crète, dans la continuité du mandat qu'il avait reçu lui-même. Et dans les premiers versets, on voit hein, comment Paul se présente. Son mandat, Dieu lui a donné un mandat d'évangélisation, d'édification, d'encouragement. Mais ce courrier de Paul est aussi pour encourager chaque église de Crète à être une église forte qui évangélise efficacement. Parce que l'enjeu premier de toute église, c'est celui de son témoignage. Je vais mentionner le plan de la lettre, qui est très simple, hein, un chapitre, un thème. Le premier chapitre parle de la gouvernance de l'Église ou de la direction de l'Église. Le deuxième chapitre parle de la vie des chrétiens les uns avec les autres. Et le troisième chapitre parle de la vie des chrétiens dans la société dans laquelle ils sont. Un plan très simple. Nous allons lire maintenant les versets 5 à 9, parce que je voudrais qu'on puisse prendre un temps pour réfléchir sur ce thème de la bonne gouvernance d'une église. « Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants ne sont pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. La visée de Paul dans tous ses écrits, c'est le témoignage de l'Église. C'est l'annonce de l'Évangile. Et la première chose que Paul mentionne dans cette épître à Tite, et je pense que s'il le mentionne en premier, c'est parce que pour lui c'est déjà la première étape, c'est que la solidité du témoignage de l'Église commence par le fait d'avoir des responsables bien choisis et qui accomplissent bien leurs tâches. C'est pourquoi il demande à Tite d'établir des anciens dans chaque Église en suivant ses instructions. Nous avons ici un des deux textes qui parle des dispositions nécessaires pour être ancien ou responsable d'Église. Timothée a reçu des instructions similaires pour l'Église d'Éphèse. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se souvenir que ce sont deux lettres écrites au même moment à des personnes différentes. 1 Timothée 3, 1-7 pour les anciens et 1 Timothée 3, 8-13 pour les diacres. Et ceci nous amène à nous arrêter quelques instants sur la gouvernance de l'Église. Qui étaient plutôt les responsables d'Église dans les églises implantées par les apôtres à l'époque, au 1er siècle? Alors il y avait évidemment les apôtres qui exerçaient une certaine autorité et une autorité certaine. Mais nous voyons déjà dès le livre des Actes, au chapitre 14, verset 23, que Paul a pris soin dès le départ de nommer, et plus tard aussi de faire nommer, comme on le voit dans le texte d'aujourd'hui, par ses collaborateurs, des responsables dans chaque église locale. Qui sont donc ces responsables? Qui sont dans le grec appelés presbyteros ou épiscopos, qui peuvent être traduits par ancien, presbytre, évêque, épiscope, dirigeant d'église ou responsable. Si vous voyez ces mots-là dans vos bibles, sachez que ça renferme la même notion. Ce sont des hommes à qui Dieu a confié la responsabilité et la garde du troupeau de l'Église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Et là, je cite le verset 28 du chapitre 20 du livre des Actes. Ce sont des hommes appelés à diriger l'Église locale collégialement, c'est-à-dire à plusieurs. Et nous voyons de manière très claire, et ça m'a vraiment surpris quand j'ai lu cet épître à Tite, la continuité dans la responsabilité de transmettre la vérité. Paul se déclare serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. C'est Dieu qui est l'autorité, c'est Dieu qui transmet à Paul une autorité. Paul qui transmet à Tite une autorité, et Tite qui va choisir aussi des hommes qui seront responsables dans les églises. Cette logique de transmission, on la retrouve aussi dans la première épître, la première lettre à Timothée, quand Paul dit ceci: « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2:2. Concernant leurs responsabilités, je vais faire un survol des différents textes, mais sans forcément se référer au texte de Tite. Les différents textes qui nous parlent des anciens nous permettent de comprendre quelle est la mission prioritaire des anciens, et aussi en référence à ce qu'étaient les anciens dans le peuple juif, à savoir donc l'enseignement, le discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, et la supervision pastorale. Je crois que j'ai mis des petites choses dans la suite. Vas-y. Voilà, enseignement, discernement de ce qui est bien et mal et supervision pastorale. Mais les anciens, on le voit aussi dans d'autres textes du Nouveau Testament, ne sont pas seuls pour diriger l'Église. Il y a les diacres qui sont mentionnés à leur côté, en particulier en Philippiens 1:1. Paul salue les anciens et les diacres. Ce qui nous laisse penser que des diacres étaient associés à la direction de l'Église. Qui sont ces diacres, dont le nom grec est diakonos, qui signifie en fait serviteur? C'est un peu plus compliqué à définir parce que c'est un mot qui n'est présent que trois fois dans le Nouveau Testament. Par contre, la notion de servir, qui est le mot en grec diakona, est largement développée et revêt un certain nombre d'aspects différents. Ce sont, donc il y a dans le service, il y a l'aspect déjà qu'on trouve dans la Bible, c'est les aspects qu'on trouve dans la Bible, de servir aux tables et d'exécuter des tâches domestiques. On trouve ça peut-être dans l'Évangile, des gens qui sont appelés serviteurs, qui venaient servir. Il y a aussi le fait de rendre des services volontairement aux autres. Donc on va avoir un cœur ouvert aux autres. Il y a le fait aussi de considérer l'exemple de Christ et de le suivre. Il y a aussi le sens de servir le Christ. Il y a ensuite le sens d'exercer ses dons dans le contexte de la communauté chrétienne. Et enfin, le sens d'assumer des responsabilités matérielles ou administratives. Voilà. Alors voilà, avec tout ça, on est bien avancé. Comment définir un diacre? La fonction de diacre est d'autant plus difficile à déterminer que les... On peut penser aux sept personnes qui a été choisie au début du livre des Actes pour assumer le service de table, et dont deux ont eu un ministère de la parole extraordinaire. Ces hommes-là n'ont jamais été qualifiés de diacres dans le texte biblique. Donc ça complique les choses. Alors que faire? Comment comprendre ce sens-là? Je me suis inspiré d'un des dictionnaires qui dit que plusieurs traditions évangéliques considèrent que les diacres dont l'apôtre Paul fait mention donc en Philippiens 1:1 et en 1 Timothée 3, sont des assistants des anciens. Dans cette compréhension du diaconat, et c'est celle vers laquelle je tendrai, les diacres assistent le pasteur et le collège, ou le collège des anciens, pour diriger ensemble l'Église. Alors j'ai mentionné, ce sont le Timothée 1, 3 nous parle d'hommes ou de femmes qui peuvent être diacres, et leur responsabilité, c'est d'assister les anciens dans la direction de l'Église. Alors on va revenir aux anciens maintenant, puisque c'est quand même le texte de Tite nous parle des anciens, et on va se poser la question: comment choisir de tels hommes? Et Paul donne des pistes de réflexion. Et on peut être surpris qu'il n'insiste pas forcément sur les capacités ou les connaissances, mais tout d'abord sur le caractère. Comme quoi ce que nous sommes est aussi important que ce que nous pouvons faire. Ce doivent être des hommes irréprochables. Alors ça ne veut pas dire parfait, parce que sinon il y aurait peu de candidats et surtout peu d'élus. Mais irréprochable, ça veut dire que ce sont des hommes qui doivent mener une vie engagée, une vie sincère, cohérente, lisible, intègre, et des hommes qui ont des relations saines avec les autres. Et Paul explique l'importance de ce critère, parce que ce sont des hommes qui vont recevoir la responsabilité d'être, il parle d'être intendant de Dieu, donc de recevoir de la part de Dieu une responsabilité de Dieu auprès de l'Église. Et Paul dit clairement que s'ils n'ont pas démontré leur capacité à la fidélité, à la droiture, à l'honnêteté dans leur vie personnelle, dans leur vie de couple et dans leur foyer, mais comment pourront-ils faire face à des responsabilités plus importantes? C'est ça l'enjeu. Alors vous me direz, mais comment évaluer le caractère d'une personne? Parce que c'est quelque chose qui... plutôt intérieur. Mais l'état intérieur se manifeste dans l'état extérieur. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre, c'est ce qui est dans le cœur qui se traduit par des gestes et des paroles. Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et David Schutz dirait, quand on renverse le bocal, même avec un œuf dedans, ce qui sort, c'est ce qui est dedans. Donc c'est là qu'on voit ce qu'il y a dedans. nos dispositions intérieures se traduisent par nos disponibilités, notre disponibilité, notre écoute, notre empathie. Alors, les responsables d'église doivent donc en tout premier lieu avoir un caractère sanctifié, mais ils doivent avoir, et c'est ce que l'on voit au verset 9, ils doivent aussi avoir, être capables à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce qui veut dire, et ce qui sous-entend une bonne connaissance de la parole de Dieu, d'être capable de transmettre aux chrétiens, de la transmettre aux chrétiens, cette parole de Dieu, en les enseignant, en les encourageant. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est d'être capable de s'opposer à toute déviance spirituelle ou morale, afin que l'Église soit gardée dans la vérité et la pureté de l'Évangile, et dans l'efficacité de son témoignage. Alors j'ai mis deux petites choses, je ne sais plus. Voilà, un caractère sanctifié et capable d'enseigner la parole et de réfuter les erreurs. Que dire de ce texte pour nous aujourd'hui ? Je crois que l'enjeu des églises du XXIe siècle est le même que celui des églises du 1er siècle. La pertinence de notre témoignage dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Alors je pense que nous pouvons aussi saisir le même objectif que Paul donne d'être une église forte qui évangélise efficacement. Est-ce que c'est ce que nous voulons être ? Nous allons pendant plusieurs semaines lire cette épître à Tite et nous sommes invités à réfléchir aux trois éléments qui ont été mis en avant par l'apôtre Paul. Je pense que j'ai mis quelque chose. D'être une église engagée dans une bonne gouvernance avec des responsables qui remplissent bien leur rôle, d'être engagée aussi dans des relations mutuelles saine, mais vraie, sincère. Ça, c'est le deuxième chapitre. Et puis, quand vous lirez le troisième chapitre, une église qui est engagée dans un monde qui nous entoure, dans une attitude vertueuse, dans une attitude ouverte, dans une attitude que j'ai appelée sainte. Vous aurez des petits papiers avec ces trois pistes-là pour à mettre dans vos Bibles. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la gouvernance de l'Église, et c'est le point sur lequel ce que j'ai développé ce matin, nous devons nous poser la question pour l'Église de Chinon, quels sont les futurs responsables pour l'Église de Chinon ? Et si le texte de Tite ne mentionne pas les diacres, le texte de 1 Timothée dont j'ai parlé le fait. Il met en parallèle les questions relatives au choix des anciens et les questions relatives au choix des diacres. Et il semble important, pour avoir un regard complet sur la direction de l'Église, de considérer à la fois les anciens et les diacres. C'est pourquoi, suite à mon départ prochain, suite à la fin du congé sabbatique de Benoît, il semble important et indispensable de procéder avant cet été à une reconnaissance d'anciens pour confirmer Benoît ou pas et pour reconnaître un ou deux autres frères pour que la direction spirituelle de l'Église soit collégiale, comme le préconisent les textes bibliques et comme le bon sens le fait entendre aussi. Alors, c'est une réflexion que l'Église doit mener. Et pour qu'elle soit complète aussi, il faut également, il me semble, réfléchir à la reconnaissance de diacres qui seraient avec les anciens unis pour constituer un conseil d'église et qui, ce conseil d'église étant l'instance qui dirige l'église dans les voies que Dieu a prévues pour l'église. Je ne vais pas entrer dans plus de détails dans cette démarche qui va aussi de pair avec la réécriture du règlement intérieur de l'Église et l'adoption d'un nouveau mode de gouvernance en double conseil, parce que vous allez recevoir très rapidement un courrier qui va expliciter tout ça. Je vous laisse dire que je suis à votre disposition pour toute explication dont vous aurez besoin. Mais je voudrais terminer en rappelant ceci, que l'enjeu de l'Église locale, c'est celui du témoignage. le témoignage que nous avons auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu et vers qui Dieu nous envoie. Et si Paul a pris soin d'écrire à Tite des choses aussi précises et aussi importantes, c'est parce que c'est quelque chose qui peut être mis en danger si on ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Et si c'est Christ qui est bien évidemment la pierre angulaire, si c'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi, la pertinence de notre témoignage passe aussi par des bons choix d'Église, le choix de bonnes personnes pour diriger l'Église dans la mission que Dieu lui a confiée. Alors on a devant nous, dans les semaines qui sont là, deux invitations, une à lire l'épître de Tite et l'autre à réfléchir et à acquérir des convictions sur les hommes que Dieu appelle pour diriger l'Église en tant qu'ancien et les hommes et les femmes que Dieu appelle pour les seconder en tant que diacre. Je voudrais terminer par la prière.